RCF.
Bonjour à toutes et à tous, ce vendredi 18h10, 19h, 50 minutes où on vous accompagne dans un magazine régional spécial, un petit peu comme l'ensemble de nos programmes pendant cette semaine sainte et en particulier ces Triduum Pascal sur les ondes de RCF. Un magazine régional sans journal à 18h30 mais avec plusieurs invités qui vont se succéder. Dans quelques instants, on retrouvera Patrick Demuy, l'historien sur la ville de Reims notamment, qui parlera des représentations au temps pascal du côté de la basilique Saint-Remi de Reims. Nous serons bien évidemment avec l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Étienne Véteux, pour un dernier numéro d'une halte spirituelle au micro de Véronique Alzieux. On entendra Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Et puis, on vous l'avait promis au cœur de la semaine, vous retrouverez en fin d'émission l'homélie de Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque émérite de Sens-Auxerre et prélat émérite de la Mission de France. C'est lui qui a présidé la messe chrismale mardi dernier pour le diocèse de Chalon. Voilà pour le programme ce vendredi soir. Nous sommes de nouveau avec l'historien Patrick Demuy, donc, qui, après avoir évoqué les représentations du temps pascal à la cathédrale hier soir, parle aujourd'hui des représentations du temps pascal à la basilique Saint-Remi, et c'est de nouveau au micro de Jean-Pierre.
Avec nous aujourd'hui Patrick Demuy. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
En cette période, après Pâques, parce que tout ça, il y a une certaine unité, on va essayer de voir avec vous, dans le patrimoine, s'il y a des éléments qui nous rappellent à la fois la passion, la résurrection. On avait évoqué dans une dernière émission la cathédrale Notre-Dame de Reims. Et si on regardait du côté de Saint-Remi, Patrick Demuy?
Oui, alors c'est extrêmement important de regarder aussi Saint-Remi, qui éclipse trop souvent la cathédrale. Bon, il est vrai qu'à Saint-Remi, le décor est beaucoup plus limité. Il n'y a pas de grande façade ornée. Et puis, malheureusement, l'église a subi du vandalisme pendant la Révolution et nous a privé en particulier d'une très grande mosaïque du XIIe siècle qui couvrait le cœur des moines, une mosaïque de caractère encyclopédique qui apportait un enseignement très, très profond sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour rappeler que toute l'histoire du salut en notre Seigneur Jésus-Christ est annoncée de manière plus ou moins voilée dans les prophéties, dans les actes même des patriarches, et puis que, bien sûr, tout s'éclaire. Ensuite, c'est ce que disait saint Augustin, hein, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau couvert d'un voile, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien dévoilé. Il y avait d'ailleurs dans cette mosaïque une représentation de Moïse avec un voile sur la tête, justement pour montrer ce lien entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance.
Je vous interromps encore, Patrick Demuy. Sur la cathédrale, ça paraît peut-être plus explicite avec la façade, enfin on s'interroge, tandis que comme vous le venez de dire, qu'est-ce qui reste dans la basilique Saint-Remi pour nous donner, voilà, qu'est-ce qui reste?
C'est ça le problème, je ne vais pas gloser, surtout à la radio, sur une mosaïque disparue, puisqu'on ne peut plus la voir. D'ailleurs, il n'y a même pas de représentation figurée, ils ont des descriptions, des textes qu'il a décrits. Il n'y a pas vraiment de dessin. Par contre, il y a encore dans la basilique Saint-Remi quelques éléments de décor qui peuvent être intéressants. Et vous savez que dans cette abbatiale, pendant longtemps, on priait les moines, c'était une abbaye bénédictine jusqu'au moment de la Révolution. Et le seul endroit où l'on trouve des chapiteaux historiés dans l'église, c'est au niveau de l'ancien chœur monastique qui est séparé de la nef, comme vous le savez, par une grille en fer forgé qui surmontait, pour en redire un mot tout à l'heure, évidemment de cette fameuse grande couronne de lumière. Et là, vous avez de part et d'autre trois chapiteaux sculptés. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de les mettre en rapport avec cette mosaïque disparue, dont on ne reparlerait pas davantage. Il met en scène des prophètes et qui annoncent justement cette passion du Christ, qui entourent les instruments de la passion. C'est le cas de Daniel ou Habacuc. On voit aussi Moïse, Aaron, Moïse avec le serpent d'airain. Le serpent d'airain, nous le voyons aussi d'ailleurs sur la façade de la cathédrale, vous le savez, est préfigure la passion du Christ. D'ailleurs, dans l'évangile de saint Jean, c'est explicite, et c'est un texte liturgique de la fête du 14 septembre de l'exaltation de la Sainte Croix. Quand les Hébreux étaient mordus dans le désert par des serpents venimeux, ils se récriminaient, bien sûr, et s'adressent à Moïse qui sur le conseil de Dieu, réalise un serpent de bronze, un serpent d'airain, qu'il érige sur une colonne, et ceux qui sont mordus se tournent vers cette colonne et vers le serpent. Et Saint Jean fait dire au Christ, de même que vos pères se tournaient vers le serpent d'airain, de même on se tournera vers le Fils de l'homme lorsqu'il sera élevé de terre. Donc ce serpent d'airain est une annonce de la croix. Et puis nous avons à côté Jean-Baptiste avec l'agneau de Dieu, ou la représentation du pélican, le pélican qui, dans la tradition des bestiaires antiques, nourrissait ses petits de son propre sang. Mauvaise interprétation sans doute du fait que les enfants du pélican vont chercher la nourriture dans la poche de son bec. Mais c'est associé évidemment à la passion du Christ et à l'Eucharistie. Alors tout ça peut être un petit peu compliqué pour nos contemporains qui ne sont pas très familiers de cette habitude qu'ont les hommes du Moyen-Âge de parler par symbole, mais c'est tout de même très présent et annonciateur de la croix du Christ qui domine véritablement tout le grand cœur de l'abbatiale. Car l'un des plus beaux vitraux que l'on puisse voir encore à Saint-Remy, qui heureusement a été préservé, a été restauré par Jacques Simon après la guerre de 14-18, c'est cette très grande et très belle crucifixion qui se trouve dans la fenêtre d'axe de la tribune. On y voit Jésus sur la croix, entouré de la Vierge Marie et de Saint-Jean, et à ses pieds le calice qui recueille le sang de l'Eucharistie. C'est exactement le même modèle que nous retrouvons d'ailleurs dans la cathédrale, dans la fenêtre axiale également, vers laquelle vraiment tous les fidèles se tournent.
Mais peut-être, Patrick Demuy, pour Saint-Remy, c'est peut-être plus difficile, je ne dis pas, hein, je vous suis bien, je vous écoute attentivement, mais pour celui qui rentre dans la basilique, c'est pas forcément naturel, il faut qu'il ait une petite formation et un guide là pour voir tout cela. Vous nous l'indiquez, bien sûr, on y pensera, mais c'est vrai que on est plus interpellé par le tombeau de Saint-Remy, par la grande couronne, le touriste qui vient, enfin le pèlerin.
La grande couronne, parlons-en, parce qu'elle est dans le prolongement justement de cette croix. Elle est le symbole de la vie, de la résurrection, de la lumière. La grande couronne, bon, qui a été restituée après la destruction de l'original par la Révolution, est chargée de symboles et d'espérance. Nous avons trop tendance aujourd'hui à considérer cette couronne comme un gâteau d'anniversaire, parce qu'on l'a vu tous les ans à la Saint-Remy, et qu'il y a 96 bougies, et qu'on dit que Saint-Remy a vécu 96 ans. Moi, je veux bien, c'est très sympathique, mais ce n'est pas du tout ça qui avait été conçu par les moines au XIIe siècle, car cette grande couronne, ça nous représente la Jérusalem céleste, la cité sainte, une cité dont les murailles sont d'or, bon, cuivre doré, flanquée de 12 portes ou de 12 tours, et nous avons bien sûr cette grande couronne 12 tourelles, et puis des cabochons verts colorés qui représentent au fond les pierres précieuses que l'Apocalypse décrit sur les murailles de Jérusalem en donnant les noms avec force détail. Et nous parlons de 96 ans, mais en fait, le symbolisme est autre. Il y a 12 portes, ce sont bien sûr les 12 apôtres, et entre ces 12 tourelles, des séquences de 8 bougies. Et le 8, dans le symbolisme traditionnel, c'est le nombre de la résurrection. Le Christ ressuscite un dimanche, qui est le premier jour d'une nouvelle semaine, 7 plus 1. Hein, le 7 est le nombre attribué à l'Ancien Testament, le 8 au Nouveau. Et cette couronne est finalement hymne à la résurrection. Et je crois que dans ce temps pascal, il est important de se le rappeler, c'est par la médiation de l'Église, les 12, que les fidèles qui se confient au Christ, et par exemple la médiation aussi de la Vierge et des Saints, qui sont très nombreux dans les vitraux des fenêtres hautes, que les fidèles parviennent à la vie éternelle et pourront suivre Jésus dans sa résurrection.
Quand vous parlez de 12, on peut peut-être aussi penser aux 12 tribus d'Israël, je ne sais pas si je...
Bien sûr, bah oui, tout ça.
Et finalement, vous l'avez dit dans une autre émission, un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque finalement, dans la Jérusalem céleste, l'Ancien Testament est présent d'une certaine façon aussi.
Bien sûr, et dans notre liturgie quotidienne ou dominicale en particulier, où il y a toujours une lecture de l'Ancien Testament qui est mise en regard avec le texte de l'Évangile, hein, et tout ça, c'est très pédagogique. C'est pas si compliqué que cela, mais bon, il faut prendre un petit peu le temps de réfléchir.
En tout cas, vous nous aidez à cette réflexion. Merci Patrick Demus d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine.
Et merci.
À très bientôt sur RCF.
À bientôt. Au revoir Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Dernière halte spirituelle en ce vendredi saint où Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, est avec Véronique Alzieux pour l'épisode 5 de la série « De la mort à la vie, le sens de la semaine sainte ». Nous attendons son retour.
Une fois n'est pas coutume, dans ces haltes spirituelles, Père Étienne Véteux, nous allons débuter cet entretien en évoquant un film, et pas forcément un film dans lequel il est question de foi chrétienne.
Merci Véronique. Oui, de fait, j'aime beaucoup ce film dont je vais parler, c'est Le jour le plus long. Alors, c'est un film qui est assez ancien maintenant, qui raconte le débarquement en Normandie.
Avec un casting
avec
incroyable.
Un casting de fou. Et il m'a permis, le début de ce film m'a permis de comprendre quelque chose, je crois, de fondamental sur le salut. Alors le film commence, on voit des officiers nazis en haut des falaises de Normandie. C'est tôt le matin, ils voient la mer, c'est magnifique, c'est calme, etc. Ils parlent entre eux et il y en a un excellent acteur qui se retourne de nouveau vers la mer. Et là, il voit des milliers, des milliers, des milliers de bateaux. Le plus grand débarquement de toute l'histoire de l'humanité. Et son regard, alors il n'y a pas de parole, mais dans son regard, on sent qu'il pense intérieurement, c'est fini, on a perdu. Mais pourtant, il a fallu que les soldats réussissent à sortir sur les plages et ils ont mis 9 mois à repousser les nazis. Et pour moi, c'est vraiment une image du salut dans le sens où, oui, le diable, si on veut, ou le mal, avec la passion et la résurrection du Christ, il a ce même regard que cet officier, c'est fini. Le Christ a vraiment vaincu. La vie a vaincu la mort. Mais, alors peut-être que le vocabulaire va être un peu subtil, pour que ce soit complètement réalisé, il faut du temps. Et il faut à la fois le temps de notre vie. Saint Augustin disait, il mettait dans la bouche de Dieu, « Je t'ai créé sans toi, je ne te sauverai pas sans toi. » C'est un peu ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'entrer, de participer, mais c'est aussi pour l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe quand une armée se retire, donc les 9 mois suivants? C'est le moment où une armée est la plus violente, qu'elle commet le plus d'exactions, c'est quand elle est en train de perdre. Et je dirais, je trouve ça personnellement éclairant sur l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de bien. Il y a vraiment eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité. Des unités politiques, des personnes qui sont données, des progrès médicaux. Il y a vraiment du bien. Et on a besoin de le regarder. C'est pas ce qu'on entend dans la plupart des médias, parce que c'est difficile à transmettre dans les médias, mais le bien... On pourrait terminer toutes les années civiles en remerciant pour tout le bien qui a été dans l'année, et c'est magnifique, mais aussi peut-être, on peut dire, il n'y a jamais eu autant de mal, mais c'est comme cette armée qui est en train de se retirer, c'est les derniers soubresauts, mais les plus violents soubresauts du mal qui sait qu'il est vaincu.
Et c'est long.
C'est long parce que l'humanité a besoin d'entrer dans le mouvement et Dieu veut donner à toute l'humanité la chance d'entrer dans ce mouvement. Mais c'est vrai, nous, on aimerait que ce soit fini tout de suite.
En tout cas, il attend de nous qu'on soit partie prenante.
Il veut qu'on mette la main à la pâte. Il veut qu'on mette la main à la pâte. Par l'Esprit Saint donné à la Pentecôte, et puis par aussi tous les différents éléments de vie chrétienne, par la Bible, alors c'est même plus large que le christianisme, mais la Bible, le soutien des autres, des uns et des autres, les sacrements, on a des dons qui nous permettent de vivre. Et je dirais même, on ne se rend pas toujours compte, on est déjà en train de ressusciter. C'est-à-dire que la résurrection, ce n'est pas uniquement après la mort, mais chaque fois qu'on vit l'Eucharistie, pour un chrétien pratiquant, chaque fois qu'on vit l'Eucharistie, il y a une forme de résurrection qui nous est donnée. Chaque fois qu'on vit le sacrement de réconciliation, la confession, le sacrement du pardon, on en sort un peu plus ressuscité. Et puis, peut-être plus concrètement, si je pardonne quelqu'un...
Chaque fois qu'on fait le bien ?
Oui, chaque fois qu'on aime. Chaque fois qu'on aime, peut-être même plus que faire le bien, qu'on aime réellement, sans s'en rendre compte, on ressuscite. Et les lieux où cet amour est le plus perceptible, c'est dans les lieux où c'est le plus difficile à vivre. Et justement, un pardon, en fait, je crois que c'est presque impossible humainement de réellement pardonner quelque chose de grave. Et quand on y arrive, alors certains vont dire que c'est par leur amour tout court, d'autres vont dire que ça vient de l'Esprit-Saint. Mais moi, je dirais, un regard chrétien dira, c'est un geste de ressuscité.
Alors pour en revenir à l'analogie que vous faisiez avec ce film de guerre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un combat à mener, qu'on est dans un combat ?
Il y a une résistance très profonde, oui. Des forces du mal et aussi de...
En nous.
Et je dirais même de nous. Oui, en nous. Des forces du mal en nous. Très concrètement, ça ne résout pas le mystère du mal jusqu'au bout, mais la proportion, la part du mal qui provient des êtres humains est immense, dans le sens où déjà tout ce qui est guerre et injustice, ça provient des êtres humains. Et bien sûr, les maladies ou les catastrophes naturelles, non. Mais si l'humanité avait déployé toute l'énergie, la force, l'intelligence et l'argent qu'elle a déployé pour la guerre, non pas pour la guerre, mais pour la médecine et pour se protéger des catastrophes naturelles, on n'en serait pas où on en serait. Donc, il y a vraiment une responsabilité humaine immense. Et puis, il n'y a pas que le mal. En fait, je crois, il y a aussi simplement une sorte de difficulté qu'on a à dépendre de Dieu ou dépendre des autres. Et ça, ce n'est pas du mal, mais c'est une sorte de résistance. Et là, le combat, il est à mener sur ces deux fronts.
C'est ce que Jésus n'a pas du tout vécu, lui. Il n'a pas résisté du tout.
Il a eu peur, mais il n'a pas résisté. Et c'est pour ça que, c'est ce que je répète dans ces émissions, il nous ouvre la voie pour s'abandonner et ne pas résister.
De quoi est-ce qu'on a peur, nous ?
On a trop peur. Tout le temps peur. C'est probablement une des plus grandes libérations qu'on peut recevoir, c'est d'être libéré de la peur. Et on a peur de ce qu'on ne peut pas contrôler. On a peur de laisser d'autres entrer dans notre vie. Si je reviens sur le film, en fait, je crois que, justement, en fait, on a peur de l'avenir. Et souvent, quand on pense au salut, on est comme on prend un tabouret qui n'a que deux pieds. C'est-à-dire que on pense au passé. Dieu nous a sauvés. Il a libéré le peuple hébreu d'Égypte. La passion de la résurrection du Christ nous ont sauvés, c'est le passé. Il y a le présent où il donne sa grâce, mais on oublie qu'il y a ce futur, qu'il y a l'ouverture au retour du Christ.
Croire en l'avenir. Et l'avenir, c'est le retour du Christ.
Alors, de nouveau, vous allez me dire, comme vous m'avez dit hier, avec raison, mais ça veut dire que la passion et la résurrection ne suffisent pas. Alors, je dirais... La passion et la résurrection ne sont complètement réalisées qu'avec ce que les théologiens appellent la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, l'accomplissement final. Et c'est tout à fait étonnant parce que tous les dimanches, pour ceux qui vont à la messe, nous disons que nous croyons que le Christ va revenir et qu'il va revenir pour juger les vivants et les morts. Et chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on dit « en attendant qu'il revienne ». Donc ça fait vraiment partie de la foi, mais ça ne fait pas vraiment partie de notre foi vécue au quotidien. Est-ce que le matin, en nous réveillant, nous nous disons « quand vas-tu revenir ?»
Et en quoi ça change quelque chose, ça ? En quoi c'est important de croire qu'il va revenir ? De se projeter vers un avenir ?
Ben, parce que, comme vous l'avez dit au début de cette rencontre, si on regarde l'état du monde, les gens ont vraiment raison de dire aux chrétiens « c'est très faible ce que vous proposez ». Ça n'a pas résolu grand-chose. Oui, parce que toutes les promesses de l'Ancien Testament ne sont pas réalisées. Les promesses de l'Ancien Testament, c'est aussi la fin de l'injustice, la fin des guerres. Et la promesse du Christ, c'est de dire « tout cela ne sera réalisé que quand toute l'humanité sera à bord, quand chacun de nous aura mis la main à la pâte et aura dit oui, d'une manière que je ne peux pas décrire tout de suite. Mais en tout cas, notre foi est complète avec l'attente de ce qui va se passer à la fin des temps. Et ce n'est pas une manière de fuir le présent, c'est une manière de dire ce présent, il va être fécond, il peut porter cet avenir-là.
D'avoir confiance.
On revient toujours à ça. C'est d'avoir confiance, et d'avoir confiance pour une raison la plus forte possible, c'est que, comme un enfant qui a peur la nuit, mais qui sait que ses parents vont rentrer à la maison, nous savons que le Christ revient, et nous devrions tous les jours lui dire « viens Seigneur, Maranatha ».
Un immense merci de nous avoir accompagnés dans ces réflexions, Monseigneur Étienne Véteux.
Monseigneur Étienne Véteux, qui était donc au micro de Véronique Alzieux, que vous entendez régulièrement sur l'antenne de RCF au niveau national.
Le 18-19 sur RCF.
Effectivement, le 18-19 sur RCF, le magazine régional RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. On est ensemble pour une demi-heure encore jusqu'à 19h. Tous les vendredis sur RCF Reims-Ardennes, on retrouve ou l'évêque auxiliaire ou l'archevêque en alternance dans notre chronique Parole d'évêque. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui était avec Jean-Pierre ce matin.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Jour de Vendredi Saint en direct pour RCF. Alors évidemment, on va évoquer cette journée particulière avec tout ce qui va se passer aujourd'hui, Monseigneur.
Ben voilà, depuis hier, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le Triduum Pascal, les trois jours du temps, enfin de la préparation de Pâques. Donc le jeudi saint, avec hier, non pas l'office de la Passion, mais la messe du soir, la messe de la Sainte Cène, en mémoire de la Cène du Seigneur. Donc c'est la caractéristique de la liturgie dans ces trois jours, c'est qu'on suit Jésus pas à pas, ce qui n'est pas habituellement tout à fait le cas, même si la liturgie qui suit plus ou moins la vie de Jésus et ses différentes étapes depuis l'avant, la préparation de sa naissance jusqu'à Pâques précisément. On ne suit pas Jésus quand même pas à pas, tandis que là vraiment on essaie de le faire. Donc aujourd'hui effectivement dans les églises, bien normalement tout est dépouillé, Jésus a été arrêté, il est jugé, il va être condamné, et c'est dans nous le suivons dans tout au long de la journée avec le chemin de croix et l'office de la croix ce soir.
Alors pour vous-même bien sûr, vous êtes à la cathédrale en grande partie.
Donc j'étais hier à la cathédrale, mais aujourd'hui à 15h, il y a le chemin de croix à la cathédrale. Et puis à 19h30, l'office de la Passion aura lieu à l'église Saint-Jacques, qui est l'église paroissiale, disons, accolée à la cathédrale. Le chemin de croix, c'est un office traditionnel. On dit généralement qu'il a été rapporté en quelque sorte par les croisés revenant de croisade. Parce que quand les pèlerins allaient à Jérusalem, ils aimaient, mais ça depuis l'Antiquité, ils aimaient vraiment mettre leurs pas dans les pas de Jésus et suivre tout, aller de lieu en lieu pour célébrer dans chaque lieu ce que Jésus avait vécu là. Et donc c'est comme ça d'ailleurs, c'est de là que vient notre liturgie de la Semaine Sainte, d'un mixte entre la liturgie de Jérusalem, et en particulier des pèlerins, et puis la liturgie de Rome. Mais le chemin de croix, donc, nous permet de suivre en 14 stations les différentes étapes depuis la condamnation de Jésus jusqu'à sa mort et même sa mise au tombeau.
Et puis, évidemment, on peut évoquer demain le samedi saint. C'est un peu particulier, le samedi saint.
Alors, en fait, je n'ai pas développé ce qui se passait ce soir. Hein, l'office de la Passion, le soir du vendredi saint, l'idée, c'est de contempler la croix comme source de vie. C'est ça qui est une des caractéristiques de ces jours de la Semaine Sainte, c'est que ce sont des jours de tristesse, de deuil, de jeûne et d'abstinence aujourd'hui. Mais en même temps, on ne cesse pas aussi de contempler combien la croix, alors c'est pas le bois de la croix, c'est la croix en tant qu'elle porte Jésus, et c'est plutôt Jésus qui est, en tant qu'il est sur la croix, qui est source de vie. Donc c'est ce que nous vivons dans l'office de la Passion, qui comporte d'abord l'entrée des prêtres en silence, et puis qui se prosternent, qui s'allongent même tout leur long devant l'autel. Et puis ensuite, après la prière d'ouverture, une liturgie de la parole, avec la lecture de la Passion selon saint Jean. Et puis ensuite, un grand temps d'intercession. Voilà, parce que Jésus est mort en croix, nous pouvons porter un peu toute l'humanité. Et un temps d'intercession qui est très ordonné, très organisé, si l'on peut dire, où on prie par cercle concentrique, en élargissant un peu le regard de plus en plus à tous les besoins possibles de l'Église et du monde. Et puis ensuite, il y a la vénération de la croix. Donc on vénère le bois de la croix qui a porté Jésus et sur lequel et par lequel Jésus a offert sa vie et laissé jaillir de son côté le sang et l'eau. Et puis ensuite, il y a la communion, on appelle ça la communion des présanctifiés, puisqu'on communie avec ce qui a été consacré la veille, puisqu'il n'y a pas de messe ce jour-là. Le seul sacrifice du Christ aujourd'hui, c'est vraiment celui de la croix dont nous faisons mémoire. Et le samedi, nous restons dans cette ambiance, un peu de deuil, de pleurs. Jésus est mis au tombeau. Les Grecs, les orthodoxes, ont de belles coutumes, de belles traditions autour du samedi saint. On va enduire une pierre... on va appeler ça la pierre de l'onction, c'est la pierre sur laquelle on a enduit Jésus d'huile et d'aromates avant de le mettre au tombeau. Et donc, on vénère beaucoup le Christ au tombeau. Et dans notre région, on sait qu'il y a de belles représentations de la mise au tombeau. Alors, la plus célèbre, hein, c'est la plus belle, il faut bien le dire, c'est celle de Chaours, vers Troyes. Hein, une magnifique sculpture médiévale. Qui représente donc la mise au tombeau avec les saintes femmes, et puis Nicodème et Joseph d'Arimathie.
Et donc, ce jour-là, pas de célébration particulière.
Il n'y a pas de messe, il n'y a rien de spécial. Voilà. On prépare quand même la vigile, un peu comme les femmes ont préparé les aromates, si on en croit, pour aller retrouver Jésus et soigner le cadavre de Jésus après le sabbat. Et donc, on prépare la vigile du soir. On peut aussi rencontrer les catéchumènes, et quelquefois c'est l'occasion pour eux de redire dans un petit groupe le Je crois en Dieu, le credo, la profession de foi et le Notre Père. L'assemblée paroissiale leur a partagé pendant le carême ce qu'on appelle la traditio, ça veut dire livrer, transmettre, et puis eux, ils procèdent à la reditio, donc ils le disent. Dans l'Antiquité, on vérifiait que les catéchumènes avaient appris par cœur Notre Père et le Je crois en Dieu. Alors par cœur, c'est pas simplement dire qu'ils peuvent le réciter, mais ça veut dire que ça s'est inscrit dans leur cœur. C'est ça qui est important. Voilà. Et on prépare donc la grande vigile du soir, qui sera ici à la cathédrale à 21h, mais dans toutes sortes de lieux, normalement au coucher du soleil. Enfin, le soleil étant couché en tout cas. Et il y a quelques lieux encore, quelques lieux qui ont choisi de le faire le matin. On avait découvert un peu ça pendant la période du confinement et du couvre-feu. Et finalement, le matin, c'est formidable de célébrer aussi cet office et puis de voir le soleil se lever à travers les vitraux de l'église.
Alors, même si on a aujourd'hui, le vendredi saint, en anticipant un tout petit peu dans cette vigile pascale, catéchumènes, ils sont nombreux, on en parle beaucoup actuellement, même sur le plan national, Monseigneur.
On en parle parce que, de fait, ils sont assez nombreux. Hein. Cette année, il y a une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière, qui est déjà, ou de 28%, l'année dernière, c'était 30%. Donc, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que voilà, des catéchumènes viennent. Et nous, je dirais, comme Église, nous devons les recevoir comme un don de Dieu. Personnellement, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ne viennent pas à la suite d'un plan. On n'a pas fait un plan de marketing. On essaie de vivre chrétiennement, on essaie d'être un peu missionnaire. Mais enfin, on n'a pas organisé spécialement une campagne de recrutement. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et donc, nous accueillons les catéchumènes comme un don de Dieu. Et il faut nous rendre capables de les accueillir. Non seulement d'ailleurs le jour de leur baptême, mais il faut nous rendre capables de les accueillir après. C'est-à-dire vraiment de leur faire une place au milieu de nous. Et leur permettre de s'y trouver bien, s'y trouver chez eux. Donc ils sont 72 dans le diocèse. Alors je souligne que dans l'évangile selon saint Luc, à un moment donné, Jésus envoie 72 disciples vers toutes les nations. Donc nous avons là un chiffre hautement symbolique et comme une promesse pour la suite. En tout cas, ce sont de beaux parcours de vie et des personnes vraiment très, très intéressante, très, très émouvante dans la force de leur choix. Et donc, laissons-nous rajeunir par tous ces catéchumènes.
Monseigneur, on vous remercie bien sûr d'être en direct ce matin, en ce vendredi saint, avec la lumière de l'espérance qu'on commence à voir déjà, même si on est vendredi, elle est déjà présente dans la croix d'une certaine façon.
Elle est déjà présente dans la croix. Ce qui est présent dans la croix, c'est vraiment la gloire, hein, parce que Jésus, voilà, ce que nous contemplons dans la croix, c'est que c'est la révélation de Dieu, de qui est Dieu, mais celui qui peut se donner ainsi.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été en direct avec nous.
Bon vendredi saint à toutes et à tous.
Au revoir Monseigneur et à bientôt.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Tout de suite, l'homélie de Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque émérite de Sens-Auxerre et prélat émérite de la Mission de France lors de la messe chrismale du diocèse de Chalon, c'était mardi soir.
C'est une belle dynamique que nous offre cet évangile de Luc en cette messe chrismale. Nous sommes dans la synagogue de Nazareth, un jour de sabbat. Jésus se lève pour faire la lecture. Il déroule le livre qui lui est remis et trouve donc le passage d'Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Tout est là. « Il m'a consacré par l'onction. » Sans vouloir être pédant, il m'a consacré par l'onction, ex chrisen en grec. Nous pourrions traduire, il m'a christifié. Et nous nous souvenons que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Christianus, les Christifiés. Oui, c'est une belle dynamique qui nous est offerte en cette page. Parce que si tout semble se dérouler selon l'habitude, comme il est écrit au début de notre texte, Jésus annonce que c'est ce jour-là, aujourd'hui, que s'accomplit ce passage de l'Écriture. La parole annoncée se fait réalité, le Verbe se fait chair. Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tout allait bien se passer, on avait toujours fait comme ça, mais ce jour-là, dans la force de l'Esprit, la bonne nouvelle s'accomplit, se réalise. Selon l'habitude, comme d'habitude, on a toujours fait comme ça. Au terme de ce carême, au moment de fêter la nouveauté de Pâques, nous pouvons bien nous demander si nous ne sommes pas, nous aussi, laissés enfermer dans nos habitudes, au point de ne pas laisser surgir en nous la nouveauté de l'Esprit. Que sont devenues nos résolutions du mercredi décembre ? Nous nous souvenons de Peggy. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Nous ne sommes plus en chrétienté. Le temps que nous vivons n'est pas seulement une époque de changement, mais véritablement un changement d'époque. Je reprends les mots que le pape François adressait à la Curie au Noël de 1919. Bien sûr, c'est une infinie tristesse de le constater. Voilà, nous vivons cette semaine sainte. Je me souviens de la semaine sainte quand j'étais petit, à côté de Troyes, au village de Pinet. C'était extraordinaire, toutes les célébrations. Puis maintenant, je suis sûr que les uns, les unes et les autres, vous pourriez dire, oui, vous savez, ça a changé. Quand j'étais petit, c'était pas comme ça. Mais alors, que devons-nous réaliser dans le monde tel qu'il est, nous les christifiés, pour proposer la bonne nouvelle de Jésus au cœur de ce monde tel qu'il est? Il ne s'agit pas de rêver. C'est tellement triste de voir, c'est vrai, tant de jeunes et tant d'autres qui crèvent de soif à côté de la source. Leurs rencontres sont le plus souvent virtuelles, sur les smartphones. Tenez, l'autre jour à Troyes, il y avait eu toute la journée des nuages assez lourds. Et puis en fin d'après-midi, un grand coup de ciel bleu qui arrivait de l'ouest. C'était magnifique, c'était à trancher au couteau. Et puis, qu'est-ce que j'entends? Dans le ciel bleu, le cri des grues qui arrivaient du côté du soleil. Et elles s'approchaient, il y avait un grand, grand vol de grues. Mais c'était magnifique. Puis voilà que passe devant moi une adolescente avec son casque qui passait tout droit. Et moi, pas agressif du tout, avec mon plus beau sourire, je lui dis, regardez mademoiselle, des grues, des grues. À côté, il y avait une maman avec ses enfants. Je lui dis, regardez les grues. Tout de suite, elle arrive, cherche ses appareils photo. Mais enfin, il y a une relation au contact. Mais c'est vrai que nous sommes dans un monde où quelle est la qualité de relation, de proximité? Oui, c'est un monde difficile dans lequel nous sommes. Au cœur du monde, donc tel qu'il est, nous voici invités dans la force de l'Esprit à proposer le Christ et son évangile, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. C'est le texte de ce jour. Devenir ce que nous sommes, des christifiés, n'avons pas tant à être des signes d'Église, mais des signes de Christ. C'est en cela que nous serons l'Église. Où en sommes-nous de notre rencontre personnel avec le Christ? Où en sommes-nous de la prière au cœur de nos journées, de la méditation de la parole, être du Christ? J'ai été pendant 11 ans évêque des prêtres et des laïcs de la Mission de France. L'un d'eux, qui a été prêtre ouvrier, est maintenant ermite du côté de la Meuse. Et je lui ai demandé, mais comment, ermite, tu prends du temps pour la prière, comment tu fais? Oh, ben tu sais, c'est tout simple, j'ai une petite maison. Alors il y a ma chambre, et puis il y a salle de séjour avec la cuisine, la table. Ben, quand je veux prier, je suis là, je me mets là. Ça, c'est ma chaise, et puis là, c'est la sienne. C'est qu'il est là. On est là tous les deux, puis on reste du temps ensemble. Oh, on ne parle pas tout le temps, mais quand on est avec un ami qu'on connaît bien, on ne parle pas beaucoup tout le temps non plus, mais on est content d'être ensemble. Quelle est la qualité de prière dans nos vies? Nous n'avons pas tant à être des signes d'Église, mais des signes du Christ. Et puis, parce que c'est incontournable, quelle est notre proximité effective avec les pauvres, les captifs. Je les évoquais à l'instant, les captifs de toutes les modes intellectuels, commerciales ou médiatiques parmi nous. C'est une grâce de pouvoir rencontrer sur nos routes en vérité ces pauvres de toutes sortes qui nous expriment leur richesse et souvent nous révèlent nos pauvretés. Je suis sûr que beaucoup parmi vous sauriez le dire mieux que moi encore en actes et en vérité. J'ai beaucoup apprécié la dernière exhortation apostolique de notre pape François sur la confiance à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face en octobre dernier. En ce jour où nous sommes, dans la diversité de nos vocations, nous, les christifiés, désireux de nous laisser saisir par le Christ pour accomplir notre mission, je relève donc ce passage du pape François, histoire de ne pas nous lamenter, mais de nous réenthousiasmer grâce à l'Évangile. Thérèse, c'est la citation du pape, Thérèse nous montre qu'il est beau de faire de sa vie un don. À un moment où les besoins les plus superficiels prévalent, elle est le témoin du radicalisme évangélique. À un moment de complexité, elle peut nous aider à redécouvrir la simplicité, la primauté absolue de l'amour, la confiance et l'abandon, en dépassant une logique légaliste et moralisante qui remplit la vie chrétienne d'observance et de préceptes et fige la joie de l'Évangile. Pape François. Nous allons continuer notre messe chrismale. Le saint sacrifice de la messe, c'est le lieu physique, puisque sacramentel, de notre rencontre avec le Christ ressuscité, jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. C'est dommage, et plus encore, que des chrétiens n'en perçoivent plus ces temps-ci, pour un certain nombre de raisons, non pas seulement la nécessité, mais plutôt le manque. Nous allons pouvoir reprendre des forces en ce corps donné et livré par amour. Tous les sacrements, et en premier lieu l'Eucharistie, sont des rencontres physiques avec le Christ. Ce n'est pas tellement nous, d'ailleurs, qui recevons le petit Jésus dans notre cœur, mais c'est tout notre être qui est accueilli auprès de lui dans la gloire de la résurrection, auprès de tous ceux et celles que nous avons aimés, que nous ne voyons plus. Et puis nous allons bénir les huiles, d'abord celles des malades. Dieu sait s'ils sont bien présents dans notre prière ces temps-ci. Pour soulager le corps, l'âme et l'esprit. Soyons vraiment en acte et en vérité les bons samaritains qui ne passent pas à côté. Vous êtes certainement nombreux ici qui vous dépassez d'une façon ou d'une autre pour être proches et attentifs à tous et à chacun. Notre monde est en guerre. La violence enflamme peu à peu non seulement notre Europe, mais toute la Terre. Comment envisager de donner la mort alors que jusqu'à la mort, il s'agit d'accompagner la vie. L'huile des catéchumènes. Réjouissons-nous de tous ces jeunes et moins jeunes pour qui justement le Christ est devenu quelqu'un au cœur de leur vie. Ils vont être régénérés dans une nouvelle naissance. Pour leur bonheur et la joie des communautés chrétiennes, puissent-elles bien les accueillir. Et puis la consécration du Saint-Crème, l'huile parfumée de tous les christifiés dans la diversité de leur vocation de prêtre, de diacre, de religieux, de religieuse, que sais-je. Que la bonne odeur de cette huile qui va se répandre parmi nous réellement soit une belle image de l'Église au cœur de ce monde. D'où vient ce parfum original au cœur des cités et des campagnes? Il apporte une douceur et une sorte de joie de vivre. Un parfum ancien avec un je ne sais quoi de nouveauté exigeante mais essentielle qui invite à la rencontre. Certains disent qu'il vient de loin. Oui, il est sorti d'un cœur brisé sur une croix pour répandre ensuite hors d'un tombeau vide dans un matin de résurrection. Évêques, prêtres et diacres, religieux et religieuses, et nous tous, dans la diversité de nos vocations, soyons simplement heureux ce soir de redire notre oui au Seigneur. Je suis sûr que Monseigneur Touvet est là en communion avec nous ce soir, en ces jours. Dans l'attente d'un nouvel évêque, nous le gardons dans la communion de la prière. Figurez-vous que ce matin, j'ai reçu un petit message de lui. Cher Yves, j'ai appris que tu célébrais la messe chrismale à Châlons. Merci. Je suis de tout cœur en communion de prière avec le diocèse que j'ai servi avec amour, joie et confiance. Avec vous, je prie pour le futur pasteur que le Seigneur enverra. À tous, je demande humblement leur prière pour l'exercice de ma nouvelle mission, tout aussi passionnante que délicate. Fraternellement et fidèlement, François. Évidemment, je lui ai répondu, François, merci pour ton message. À la fin de mon homélie, j'avais plutôt prévu de dire, je suis sûr que Monseigneur Touvet est en communion avec nous en ces jours. Dans l'attente d'un nouvel évêque, nous le gardons dans la communion de la prière. La prière est toujours le lieu de la plus grande communion. Bien sûr, je lirai à tous le message que tu m'as envoyé, fort en communion avec toi, dans la commission qui t'est confiée, et bien amicalement, beau jour saint, avec toute mon amitié. Oui, la prière est toujours le lieu de la plus grande communion. Nous voilà tous ce soir dans une communion affective et effective avec tous ceux et celles dont nous portons notre responsabilité de disciples missionnaires dans la diversité de nos vocations, prêts à accueillir celui que le bon berger vous enverra au service de l'annonce de la bonne nouvelle.
Merci Monseigneur Yves Patenôtre, merci à tous les auditeurs pour votre fidélité en vous souhaitant une bonne fin de carême, une très belle fête de Pâques ce dimanche. Le magazine régional revient non pas lundi puisque vous le savez ce sera férié, mais mardi le 2 avril à 18h10, dès 7h du matin, il y aura des invités ou un journal sur vos différentes antennes RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Nous serons notamment sur RCF France-Ardennes et en DAB+, avec Franck Talleux, le directeur interdiocésain de l'enseignement catholique pour le diocèse de Reims et le diocèse de Châlons. N'oubliez pas non plus que dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'été. En avril, on avance d'une heure, même si on sera dans la nuit du 30 au 31 mars. À 2h du matin, il sera donc 3h. Belle soirée. Merci pour votre fidélité. Bonne Pâques.